9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, excellent week-end. En demandant une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, la ministre de l'Enseignement supérieur ne se doutait pas que le ciel allait lui tomber sur la tête. C'est un collectif de 100 professeurs et chercheurs qui lui avait conseillé de le faire. Le philosophe Pierre-Henri Tavoyau en faisait partie. Il est avec nous ce matin. Et sur le revenu universel, dont on s'est remis à parler depuis que beaucoup de jeunes se retrouvent à la rue à cause de l'épidémie de Covid, je reçois Benoît Hamon, qui a été le premier sur le sujet il y a 4 ans. Enfin, sur le complotisme, les fake news et la défiance à l'égard de nos dirigeants, il y aura Anne-Cécile Robert. Elle va nous expliquer pourquoi le mensonge occupe une telle place aujourd'hui dans la vie politique. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a provoqué un tollé en demandant une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Les présidents d'universités ont dénoncé des représentations caricaturales, dignes du café du commerce. On a parlé de chasse aux sorcières. Le président de la République et le Premier ministre se sont vite désolidarisés de la ministre. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a été obligé de lui rappeler que les chercheurs étaient indépendants. Surtout qu'au même moment, beaucoup d'étudiants souffrent des conséquences de la crise sanitaire et c'était pas franchement opportun. Mais bon, la ministre, au fond, n'a fait que faire ce que lui demandait un certain nombre de professeurs et de chercheurs. Il faut se souvenir que dans une tribune du Monde, il y a 4 mois, juste après l'assassinat de Samuel Paty, un collectif de 100 professeurs et chercheurs, dont vous faisiez partie, Pierre-Henri Tavoyau, lui avait demandé à la ministre, justement, de s'emparer de ce problème. Alors, je vous présente, vous êtes philosophe, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de nombreux livre sur le pouvoir, comme « Gouverner un peuple roi » ou « La morale de cette histoire » qui est un guide éthique pour temps incertain. Pardon, je le prononce mal, mais le titre est joli. Alors, vous avez demandé à Frédéric Vidal de mettre en place des mesures de détection des dérives islamistes à l'université. C'est le texte que vous avez signé à l'époque. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans sa démarche ?
Pas intégralement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le débat a lieu sur cette question. Je pense que c'est bénéfique. Alors évidemment, comme c'est le milieu universitaire, c'est un débat assez hystérique. Ça, c'est normal. Donc ça, c'est le point. Non, ce qui me gêne, c'est deux choses. C'est d'une part le fait qu'on confie au CNRS la mission de voir ce qui se passe à l'université. C'est quand même deux organismes différents, donc on ne voit pas très très bien pourquoi l'un serait plus légitime que l'autre, d'autant que les problèmes similaires se posent aussi au CNRS. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, je pense que en fait... Le
CNRS n'a pas du tout aimé qu'on lui confie mission.
Ils ont dit tout de suite. Réagi tout de suite, comme la CPU, donc la conférence des présidents d'université. Alors moi, ce que je regrette, c'est que il y a une forme de déni, c'est-à-dire de cette réaction un peu rapide, j'allais dire cache un peu quelque chose. C'est-à-dire que il y a ce type de problème dans l'ensemble de la société et il n'existerait pas à l'université. Donc je pense que cette réaction rapide est aussi négative. Mais je pense que le point essentiel, c'est pas ça. De demander de faire un travail de recherche sur les chercheurs, c'est pas très très astucieux. Moi, ça me plaît pas parce que voilà, il y a un principe qui s'appelle la liberté académique et chacun peut faire les recherches sur ce qu'il veut. Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt les pratiques, parce que effectivement, les idéologies ont le droit parfaitement de s'exprimer tant qu'elles ne constituent pas des pressions sur les individus, sur les chercheurs, qu'elles ne formatent pas des profils de recherche, qu'elles ne produisent pas des effets de censure. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il y en a. Il y a eu des événements annulés, des conférences annulées, des spectacles comme les suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne qui ont été annulés et perturbés. Donc il y a ces phénomènes qui sont présents et donc je crois que ce sont ces pratiques qu'il faut viser. Après, le débat d'idées, bah, c'est notre boulot, si je puis dire. Si on n'est pas d'accord avec des thèses, eh bien, on doit les affronter, se confronter et les contre-argumenter.
L'islamo-gauchisme, c'est une expression qui avait été inventée par Pierre-André Taguieff en 2002, qui a signé, comme vous, la Tribune du Monde, d'ailleurs. Elle a été souvent employée par le Printemps républicain, par Jean-Michel Blanquer sur Europe 1 après l'assassinat de Samuel Paty. C'est d'ailleurs à la suite de cela que vous aviez écrit cette tribune dans Le Monde. Mais elle désigne quoi ou qui exactement ? C'est quoi l'islamo-gauchisme vous ?
On dit souvent que ça n'existe pas ou que c'est n'importe quoi. Que c'est confus.
On a parlé de slogans politiques qui ne recouvraient aucune réalité scientifique, que c'était du café du commerce et que c'était un moyen d'instaurer une chasse aux sorcières. C'est grosso modo ce qui a été dit depuis quelques jours.
Je pense que c'est au contraire quelque chose qui est assez précis, qu'on peut déterminer. On peut en construire ce qu'on appelle le type idéal, c'est-à-dire les traits caractéristiques. À mon avis, il y en a trois. Il y a première idée, l'idée que l'islam est la religion des opprimés, ce qui permet au gauchisme d'abjurer, si je puis dire, son athéisme pour se dire, bon, puisque c'est la religion des opprimés, alors nous, habituellement, on est plutôt athées, mais là, on va quand même écouter ce cri des peuples meurtris. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que cet islam a une force révolutionnaire. À une force révolutionnaire qui va permettre d'être un allié objectif à ceux qui veulent encore faire la révolution. Or, les gauchistes qui veulent faire la révolution en Europe sont bien obligés de constater qu'il n'y a plus beaucoup de prolétariat. Je veux dire plutôt que le prolétariat est plutôt du côté de l'extrême droite et non plus de l'extrême gauche, et qui cherche davantage à être bourgeois qu'à tuer le bourgeois. Et donc, du coup, il est important d'utiliser cette force révolutionnaire pour produire la révolution, ce pourquoi aussi cet islamo-gauchisme est très favorable à la migration. C'est-à-dire, c'est une logique d'open border, il faut importer du prolétariat pour faire la révolution. Deuxième idée. Troisième idée, les attentats, bon, bah, évidemment, c'est bien dommage, ces attentats, c'est bien, bien fâcheux, mais quand même, au bout du compte, ces attentats sont une réaction à l'égard d'actions de légitime défense, à l'égard d'un Occident qui est impérialiste et dominateur, et d'une certaine façon, on l'a bien cherché, donc nous n'avons que la monnaie de notre pièce. Voilà les trois idées qui structurent le type idéal, si je puis dire, de l'islamo-gauchisme. Alors après, il y a évidemment des personnes qui l'incarnent, plus ou moins, il y a des degrés, hein, bien sûr, mais des personnes qui l'incarnent.
Et à ceux qui disent que l'islamo-gauchisme aujourd'hui est utilisé comme le complot judéo-bolchevique par les fascistes d'avant-guerre?
Je pense que Pierre-André Taguieff, qui est spécialiste de ces questions, s'en est assez bien expliqué. C'est-à-dire que, voilà, on a deux choses totalement différentes. Dans un cas, c'est effectivement une critique assez radicale de la démocratie libérale, de la liberté de parole, des droits de l'homme de façon générale. Dans l'autre cas, c'était quand même plutôt un discours, disons, à obédience totalitaire. Donc je pense qu'il y a quand même une différence de nature assez importante entre les deux.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Pierre-Henri Tavoyot, qui fait partie des 100 premiers signataires de cette tribune parue dans Le Monde il y a 4 mois, qui dénonçait à l'époque l'islamo-gauchisme dans l'université et qui invitait la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, à prendre des mesures. Elle vous a écouté, peut-être qu'elle le regrette aujourd'hui. Alors continuons d'essayer de comprendre ce que vous disiez à l'époque et notamment vis-à-vis de cet islamo-gauchisme que vous venez de nous définir de façon assez claire. Néanmoins, sont visées, on le sait bien, les études postcoloniales ou intersectionnelles. Alors, les études intersectionnelles, c'est les études sur les discriminations, mais les discriminations qui s'accumulent, hein, c'est-à-dire les discriminations pour son origine sociale, mais aussi ethnique, mais aussi religieuse, ou pour, pour son genre, tout simplement. Alors, est-ce que ce sont tous ceux qui étudie les discriminations ou le droit à la différence qui sont visés?
Alors là aussi, il faut essayer de clarifier un peu les choses et on peut construire aussi l'idéal type, ou en tout cas les traits caractéristiques de cette pensée décoloniale qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, là aussi, c'est pour ça que le débat intellectuel est important. Tout n'est pas faux dans ces idées. Donc ce serait absurde de les... La logique d'ensemble est problématique quand ça devient la grille de lecture exclusive. Mais l'idée décoloniale, c'est quoi? C'est l'idée que le colonialisme, la colonisation, structure et organise absolument toute l'oppression. Et toute l'oppression, notamment, dont l'Occident est coupable. Ce n'est pas simplement l'oppression des Blancs à l'égard des autres peuplades, c'est aussi l'oppression des hommes à l'égard des femmes, c'est-à-dire que c'est une forme de patriarcat, ce colonialisme. C'est aussi l'oppression de l'industrie à l'égard de la nature, et c'est évidemment l'oppression des riches à l'égard des pauvres. Donc ça condense, le colonialisme condense toutes les formes d'oppression et les résume en quelque sorte. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'évidemment, nous sommes dans la phase de décolonisation, donc on pourrait dire tout ça est derrière nous, mais pas du tout. L'argument des décoloniaux, c'est de dire, en fait, sous couvert de décolonisation, c'est un leurre, la décolonisation, au fond, l'oppression est encore plus importante qu'auparavant parce qu'elle avance masquée. Le pseudo-féminisme cache un patriarcat extrêmement puissant. Le développement durable, on nous dit qu'on va protéger la planète. Pas du tout. On est en train de mettre en place le capitalisme le plus puissant. Voilà, à tous les niveaux, on vise quelque chose et la cible, c'est ce blanc polyprédateur. un prédateur de tout, pas simplement de l'Orient, mais aussi des femmes, mais aussi de la nature, polyprédateur. Et face à ça, troisième idée, il faut faire la guerre. Voilà. Il faut d'abord comprendre les choses.
Vous êtes sûr qu'il y a ça à chaque fois
non, bien sûr. Non, on est bien d'accord. J'en donne la logique maximale. Après, il y a des degrés.
Extrémistes,
voilà. Et c'est la tendancielle. Après, il y a toute une série de degrés possibles. Mais il faut faire la guerre, c'est-à-dire... Vous voyez, c'est inquiétant pour l'université, parce que ça veut dire qu'une question d'idées, puisqu'il faut faire la guerre, débouche sur l'idée qu'on peut effectivement virer les mâles blancs dans les concours de recrutement, qu'on peut éventuellement interrompre une conférence, parce que c'est la guerre. Parce que...
Vous vous souvenez que la lutte des classes aussi était censée engendrer la guerre, et pourquoi pas, dans ses pires versions, l'éradication de la bourgeoisie. Ça n'empêche qu'on a laissé les marxistes continuer de faire des études à l'université.
Oui, alors, il faisait beaucoup aussi au sein du Parti communiste, qui était à l'époque la vraie université du marxisme. Mais voilà. Mais oui, bien sûr, c'est cette logique-là qu'on avait un peu oubliée, parce que, sauf les militants d'avant ou ceux qui étudient l'histoire savent effectivement ce qui se passait de cette forme. C'était pas forcément très très sympathique. Ça revient sous cette forme aujourd'hui.
Mais un militantisme violent dans l'université, de la censure, ça a toujours existé, j'ai l'impression, non, dans les sciences humaines.
Plus ou moins, c'est-à-dire que je pense que on a été dans une phase de relatif pluralisme, c'est-à-dire où effectivement après la période 68, où effectivement les choses étaient dans un contexte de démocratisation de l'enseignement supérieur aussi, les choses étaient assez clivées. Nous étions habitués à qu'il y ait des querelles de chapelles qui existaient, mais une multiplicité de chapelles. C'est comme l'Angleterre avec les sectes protestantes au XVIIe siècle. Il y en a beaucoup, donc d'une certaine façon, aucune n'est véritablement dominante.
Mais est-ce qu'il y a dans l'université, parce que c'est ça qui est sous-jacent à la fois dans votre tribune et dans ce qu'a pu laisser entendre la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est que tout ça, au fond, empêcherait de désigner l'islamisme comme responsable de l'assassinat de Samuel Paty. Vous le pensez sincèrement ?
Il y a effectivement beaucoup de déni. Alors là aussi, il faut être très attentif. C'est pour ça que la situation est complexe et il n'y a pas de solution simple. C'est qu'il y a toute une série de gradations. Certains disent « ça n'existe pas ». Voilà, il n'y a pas de problème. Ça ne concerne pas l'université. Alors ça concerne l'ensemble de la société, mais ça ne concerne pas l'université. D'autres disent « bon, ça existe, mais on va plutôt le mettre sous le tapis ». Et puis il y en a d'autres qui disent « bon, ça existe, on va le mettre sous le tapis, mais ça nous fait surtout un peu peur, donc on va se taire ». Et puis d'autres disent « voilà, au contraire, c'est la bonne nouvelle, ça va un peu mettre le coup de pied dans la fourmilière et ça va tout faire péter ». Donc voilà, il y a toute une série de degrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus perdre son sang-froid dans une sorte de logique quasi complotiste en disant qu'ils sont en train d'entrer dans l'université. Mais je crois que de ce point de vue-là, nous sommes devenus extrêmement naïfs. Et il y a en effet, c'est une technique classique, des départements qui deviennent des départements complètement noyautés, avec une uniformité idéologique totale qui empêche effectivement la diversité de s'exprimer.
Mais vous connaissez, vous, Pierre-Henri Tavoyau, des cas d'atteinte aux principes républicains et à la liberté académique, à part celui de la ministre elle-même, puisqu'on lui a reproché justement d'atteinter à la liberté académique.
Oui, j'ai pu constater effectivement des cas. Alors je ne vais pas les citer, parce que précisément, c'est mon petit point de vue, et puis il faudrait des preuves. Donc de ce point de vue-là, c'est exactement la raison pour laquelle je demande qu'il y ait une instance à laquelle on puisse faire remonter ce type de situation, comme il en existe à l'école. Par exemple, le Haut Conseil des Sages à la laïcité, qui est une instance que je ne crois pas perçue comme étant particulièrement macartiste, mais on peut lui faire remonter des informations, et puis elle va vérifier, enquêter, et c'est elle qui va pouvoir dire s'il y a un problème ou pas. Voilà ce qui manque. Les guides de bonne conduite des universités sont un peu flottants. Il manque cette instance qui permette effectivement de recenser, et de voir si c'est important, si c'est grave ou pas, ou aussi si on peut passer là-dessus. Voilà. Donc ce n'est pas une enquête du CNRS qui me paraît être la solution, c'est plutôt effectivement une instance de référence.
Merci Pierre-Henri Tavoyau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La morale de cette histoire, guide éthique pour temps incertain. Le titre s'y prête, non ?
Absolument.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Depuis quelque temps, du fait de la crise sanitaire et sociale qui plonge les plus précaires dans le dénuement, une partie de la jeunesse en particulier qui n'a pas droit au CSA, l'idée du revenu de base universel refait surface. Des personnalités de tous bords, des socialistes, des écologistes, des communistes, des libéraux en font la promotion, y compris le pape François. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Ancien ministre, c'est en tant que candidat du Parti Socialiste à la dernière présidentielle que vous avez popularisé cette idée de revenu universel et que vous continuez de militer en sa faveur dans votre dernier livre « Ce qu'il faut de courage », sous-titré « Plaidoyer pour le revenu universel » qui vient de paraître aux éditions de l'Équateur. J'imagine que vous en êtes content.
Je suis content que cette idée prospère. C'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas qu'on puisse en parler de façon un peu plus sérieuse qu'à la dernière élection présidentielle où on était souvent dans un débat un peu caricatural sur cette idée de revenu universel qui s'attardait sur le risque que les personnes basculent dans l'inactivité, la paresse, l'oisiveté. On était essentiellement sur des préjugés qui s'opposaient à cette idée-là. Et je trouve que le progrès par rapport à 2017, c'est que désormais, il y a un certain nombre de ces préjugés dont on va dire les fondations s'érodent, et notamment dans le rapport au travail, mais c'est surtout qu'on a désormais un débat philosophique et politique qui me semble... Alors, je vais dire que c'est par rapport à notre époque, ça va être curieux, mais un peu plus apaisé, un peu plus intéressant, dans un moment où quand même il est assez difficile d'avoir un débat calme et apaisé sur quoi que ce soit.
Dans votre livre, vous dites que vous restez persuadé que ce sera la grande conquête sociale du 21e siècle. C'est vrai qu'on a un peu fait une croix sur les conquêtes sociales depuis un certain temps. La gauche se bat pour préserver les acquis, comme on dit. Là, ce serait effectivement une conquête.
Quand elle parvient à le faire, ce qu'elle ne parvient plus à faire, c'est que si on regarde, on va dire, les 20 dernières années, depuis les 35 heures et la CMU, c'est-à-dire ce moment, la première partie du quinquennat de Lionel Jospin, Premier ministre, il n'y a plus le souvenir d'une seule conquête sociale. Et je crois, oui, qu'aujourd'hui, la question de l'émancipation des individus par rapport à un travail qui n'est pas qu'un travail qui épanouit, mais qui est un travail qui aliène, les moyens qu'on donne à chaque individu de retrouver une capacité à négocier et à se construire une conscience politique, pas simplement par réaction, on va dire, au fer brûlant de l'oppression, mais parce qu'on a le désir de s'éduquer, de s'épanouir. Je crois que cette question-là est une question absolument centrale dans des sociétés qui sont formées par les peurs. La peur, alors il y en a plein, hein. Il y a le marché des peurs, et maintenant il y a une offre innombrable, mais aussi au-delà de ces peurs, qui sont beaucoup véhiculées par le débat politique, parce qu'il y a des grandes transformations. Et la révolution numérique, comme l'impact du réchauffement climatique sur notre modèle de développement, elle nous oblige à nous interroger sur le type de protection sociale qui seront demain attachées aux individus. Et je crois qu'effectivement, le revenu universel, c'est un peu aussi une manière pour la gauche et l'écologie politique de se réconcilier avec l'individu, ce qui est une question importante, en tout cas, qui a traversé les débats de la gauche, au moins pendant le siècle qui nous a précédés.
Néanmoins, Benoît Hamon, vous ne pouvez pas faire l'économie de la question « Est-ce que ce serait juste ?» Parce que de verser un revenu de base à tout le monde, riche ou pauvre, sans contrepartie, sans rien exiger en retour, tout le monde le toucherait, aussi bien l'étudiant qui a du mal à se nourrir aujourd'hui que Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, ou le chômeur professionnel qui pourrait renoncer définitivement à contribuer à la société en vivant des subsides alloués par ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser. Il y a une question de justice, là aussi.
La question de justice, elle se pose sur Bernard Arnault et l'étudiant aujourd'hui qui fait la file à la Banque alimentaire, par exemple. On peut prendre cette polarité-là. En réalité, Bernard Arnault est déjà remboursé de la même manière par la Sécurité sociale s'il a la grippe que cet étudiant. Et on oublie qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments de notre couverture sociale qui sont universels. Comment la justice s'exerce-t-elle ? Pas au moment où on leur rembourse cette grippe, mais au moment de l'impôt. Alors on peut se dire aujourd'hui que les grandes fortunes françaises se débrouillent pour payer moins d'impôts qu'elles ne le devraient. Ça, c'est un vrai sujet. Mais le revenu universel, par les contributions qui seraient créées sur le patrimoine et sur le revenu, va évidemment rééquilibrer les choses, et très largement dans le fait que par l'impôt demain et par ces contributions nouvelles, les plus riches seraient mis à contribution bien plus évidemment que l'étudiant. Donc on oublie que finalement, dans les systèmes qu'on a voulu construire, c'est la fiscalité qui permet l'exercice de la justice. C'est combien je vous prends pour financer la solidarité. Mais j'insiste sur un point. Pourquoi est-ce que je souhaite qu'elle soit universelle, cette mesure? D'abord parce que personne ne peut être à l'abri totalement de ce qui pourrait être des accidents de la vie. Je ne parle pas des plus riches parmi les riches. Mais d'autre part parce que dans tous les pays où on réserve les droits, les aides sociales, aux plus modestes, où il n'y a plus d'universalité, on voit s'effondrer quoi ? Le consentement à l'impôt. Or, on a besoin du consentement à l'impôt pour financer la solidarité. Et moi, je suis attaché à ce qu'il résiste, et ce qu'il reste, et voire même qu'on conquiert de nouveaux droits universels. C'est marrant qu'on parle d'universalité aujourd'hui ou d'universalisme et qu'on oublie que la République, ce doit être aussi la République sociale. Et qu'on doit penser à la façon dont on protège correctement les citoyens contre les aléas de la vie, et comment on finance cette solidarité-là. Donc moi, je suis attaché au caractère universel et inconditionnel du revenu universel.
Mais est-ce que ce serait efficace, Benoît Hamon, parce que ça nécessiterait un énorme transfert d'argent de la part de la collectivité vers les individus qui se retrouveraient avec quelques centaines d'euros chacun. Alors que si on mutualise cet argent, ça fait des milliards, on peut financer des écoles, des crèches, des hôpitaux et toutes sortes de services publics gratuits.
Ah oui, mais d'abord, on continuera à le faire. Ça n'est pas un argent qui sort des caisses de l'État. C'est effectivement un transfert de richesse, mais un transfert de richesse, c'est pas pour autant que le budget de l'État, lui, est mis à contribution. Qu'est-ce que le revenu universel permettrait comme gain en dehors du gain individuel qui est d'avoir, par exemple, pour vous, pour moi, pour celui qui nous écoute, 750 euros par mois en plus de tout ce qu'il a, de sa retraite, en plus de son salaire, en plus de tous les autres revenus d'activité.
Je précise, vous proposez 750, d'autres proposent 500, d'autres 10, il faudrait plus, peu importe.
Oui, c'est en débat. Voilà. Et moi, je propose ça par commodité par cohérence avec ce que j'avais proposé auparavant. Mais ce montant, il est évidemment en débat. Ensuite, pour une autre raison, c'est que la chronologie de la mise en œuvre du revenu universel ne peut pas nous amener du jour au lendemain dire, bon écoutez, lundi prochain, on a tous 750 euros en plus, ça marcherait évidemment pas comme ça. Comme la sécurité sociale, c'est la bonne comparaison me semble-t-il, la montée en puissance fut progressive. D'ailleurs, aujourd'hui, 70 ans après la création de la sécurité sociale, on n'a plus la même protection sociale qu'on l'avait après-guerre. Mais le gain, il est à mon avis, je vais prendre un exemple, si demain, une personne modeste qui aujourd'hui a un salaire un peu au-delà du SMIC, qui n'a pas d'autre choix que d'acheter low cost pour nourrir sa famille, se vêtir, s'équiper. Si demain, grâce à ces 750 euros en plus, elle abandonne cette économie low cost, qui est l'économie la plus prédatrice sur l'environnement et sur le social, c'est-à-dire qu'on fait travailler dur des gens qui sont mal payés pour pouvoir avoir une barquette de hachis parmentier pour la préparer, très, très peu cher dans les rayons. Ben, si demain on a cette possibilité du choix et d'abandonner cette économie-là, la conséquence, elle est aussi que le consommateur devient partenaire de la transition écologique. Il n'est plus contraint d'alimenter un système qui est un système prédateur pour l'écologie, les écosystèmes et la biodiversité.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Toujours avec Benoît Hamon, on parle du revenu universel, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Alors certains disent qu'il faut le conditionner au revenu. Il ne faut plus qu'il soit universel, justement, que ce soit juste un revenu de base élargi, par exemple, un RSA élargi au moins de 25 ans. Évidemment, ça coûterait beaucoup moins cher que ne risque de coûter le revenu de base universel.
Oui, ça n'a pas du tout compris la même portée politique et émancipatrice. Moi, je suis tout à fait pour que les choses soient dites, mais déjà depuis très longtemps, et à l'élection présidentielle, je l'avais déjà dit, qu'on améliore aujourd'hui la protection et la couverture des plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien. Et il y a deux mesures
qui passent souvent au travers des mailles du filet de notre système de protection, qui est très généreux, mais qui est basé aussi sur l'exclusion, il faut bien le dire.
Raison simple qu'on peut régler tout de suite, là, mais que le gouvernement ne fait pas, c'est que, par exemple, pour avoir le RSA, quand on est pauvre, il faut le demander. Et le simple fait qu'il faille le demander exclut 30% des bénéficiaires de la mesure du RSA. Ce qui fait que, et les services de Bercy le savent très bien, nous faisons une économie par le fait que nous n'automatisons pas la distribution du RSA. Ce serait d'une simplicité absolue, on fait l'impôt à la source aujourd'hui. Donc on est parfaitement capable de le faire. Le choix de ne pas le faire, c'est de faire des économies sur le dos des pauvres.
Ou on multiplie les petites aides qui s'accumulent. Aussi, on ne sait pas toujours à quoi on a droit.
Non, absolument. Et puis, il y a un autre anachronisme, alors là, typiquement français, c'est qu'en Europe, les minima sociaux, bah vous y êtes éligible quand vous êtes majoritaire, majeur pardon, et que vous avez le droit de vote. En France, c'est à 25 ans. Vous avez le droit de voter à 18 ans, mais vous n'êtes éligible aux minima sociaux qu'à 25 ans. Anachronisme français qui maintient dans la pauvreté, aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes. Bon, donc il faut pouvoir régler ça. Il y a deux trous dans la raquette qu'il faut régler pour ce qui relève du revenu minimum. Mais le revenu universel, il concernera tous les Français. Il est un moyen de pouvoir, alors c'est la vertu principale que je lui prête, redécouvrir la liberté et le choix. Il y a beaucoup de vies, pour nos compatriotes, qui sont des vies sans choix, où on a le choix de quasiment rien, en raison des faibles revenus que l'on a. Moi, je crois, si pour reprendre une discussion qui est une discussion ou un débat qui fut important à gauche, mais qui, à mon avis, doit parler à beaucoup de vos auditeurs, indépendamment de leur choix politique. À gauche, il y avait un débat qui était de savoir est-ce que c'est, comme disait Marx, l'existence qui détermine la conscience. C'est que parce qu'on a une vie dure, on va prendre conscience quand qu'on est opprimé, on se révoltera. Et puis Jaurès disait quelque chose de différent. Il disait aussi que par la conscience déjà et par l'éducation, la connaissance, on peut finalement se bâtir une autre existence. Je crois qu'il y a des vertus éducatives et pédagogiques au revenu universel. Et moi, je crois beaucoup, je suis d'ailleurs, de ce point de vue-là, plus jaurésien que marxiste, je crois aujourd'hui qu'on a besoin de redonner le choix aux individus en leur permettant une pratique de la liberté. Et c'est intéressant de voir que le Vatican et le pape François, dont la doctrine sociale de l'Église, elle est quand même très ancienne, et sur le rapport au travail, l'héritage judéo-chrétien pèse beaucoup dans notre approche et notre représentation du travail. Et le dernier livre du pape, qui s'appelle « Un temps pour changer », je crois, que j'ai lu d'ailleurs, est un plaidoyer pour le revenu universel, qui lui aussi tire le leçon, je crois, des grandes transformations qui sont celles de notre époque, dans le rapport au travail qui est en train de se nouer, et puis dont on fait l'expérience d'ailleurs les uns et les autres à travers le travail à domicile, qui est une manière d'importer le travail chez soi et de plus savoir quand on travaille, quand on ne travaille pas, et qui doit nous amener, je pense, aussi à repenser notre protection sociale.
Mais Benoît Hamon, parmi ceux qui critiquent l'idée même du revenu de base universel, il y en a qui disent que c'est une façon d'acheter la paix sociale, tout en se débarrassant d'une partie de la population que, de toute façon, on a l'intention de remplacer par des machines.
Oui, alors ça, c'est quand même pas des gens très optimistes. Pour l'instant, ils n'ont rien, les gens. Moi, je propose qu'ils aient 750 euros en plus de leur revenu d'activité. Le principe, d'ailleurs, c'est une prédistribution des richesses. Si on remonte à l'idée même du revenu universel, avant de savoir si c'est bon ou pas, c'est pourquoi philosophiquement est-ce qu'on peut considérer que le revenu universel est justifié ? D'abord parce qu'on sait que, par exemple, quand on parle du PIB, on parle toujours de croissance. Dans le PIB, il y a le fruit de votre activité, de la mienne, de toutes celles et ceux qui nous écoutent. On travaille donc en contrepartie, on construit le PIB, la valeur ajoutée. Mais le PIB, il n'est pas construit que de cela, que de notre activité présente. Une part de ce PIB, c'est la rente de l'activité de ceux qui sont morts, de ceux qui nous ont précédés, du génie de l'humanité. Et le revenu universel vient dire quoi ? Que cet héritage collectif, il est réparti en fractions égales entre tous les individus. Il n'y a pas de raison qu'une petite minorité s'accapare la totalité du résultat du génie de ceux qui nous ont précédés. Et au nom de cette idée, on a le revenu universel. Alors, est-ce que ce revenu universel n'a que des qualités ? Bien sûr qu'il y aura des effets pervers. Et moi, je ne suis pas là pour dire non, on a là, par magie, la solution qui va rétablir et l'équilibre avec les écosystèmes, et la justice sociale, et la fin des inégalités. Et c'est pour ça que la gouvernance du revenu universel, elle doit être démocratique, elle doit être patiente, tempérante, comme avec la sécurité sociale. Mais s'interdire aujourd'hui de penser une mesure qui permet pour chacun la pratique de la liberté, potentiellement l'émancipation et l'épanouissement, je crois que c'est à rebours de ce pourquoi la République a été construite. C'est-à-dire penser les Lumières, penser l'émancipation collective, mais en donnant la liberté à chacun. C'est là où la gauche devrait réfléchir à nouveau à la question de l'individu dans le collectif et pas simplement au collectif.
Et la liberté, c'est souvent d'avoir du temps pour soi. Tout le monde commence à être d'accord sur cette notion. Vous l'avez dit, ce serait un moyen d'émancipation. On aurait le choix de travailler en plus ou pas, de gagner davantage ou pas. Donc on serait plus libre de son temps. Ce serait effectivement une véritable révolution. Mais n'a-t-elle pas déjà eu lieu en partie, si l'on compte le temps que l'on passe à faire des études, le temps libre dont on dispose déjà, le temps que l'on passe à dormir et celui qu'on passe à la retraite, les Français ne travaillent plus en moyenne que 10% de leur existence. Mmh. C'est un chiffre assez faramineux. Il a été calculé par un sociologue, c'est Jean Viard, qui a beaucoup travaillé sur la civilisation des loisirs. Ce chiffre, il est hallucinant. Quand je le dis, en général, personne n'y croit. Mais si vous calculez, il est bien, en moyenne, en statistique, mmh. il est juste.
À condition qu'il ne tienne que, à condition de ne tenir compte que du travail dans l'emploi. Or, ce qui est intéressant, c'est d'observer que on travaille aussi en dehors de l'emploi. Et ce que le revenu universel vient aussi reconnaître, c'est qu'il y a du travail bénévole, qui est un travail qui crée du lien social, qui n'a aucune contrepartie. Il y a du travail domestique. Et la réalité de ce travail, elle ne se résume pas à l'emploi. D'ailleurs, il y a une, faites un, ce petit jeu autour de vous. Quand vous posez la question à quelqu'un, travaillez-vous, il va vous répondre, ai-je un emploi ou pas? Et pour autant, s'il n'a pas d'emploi, est-ce que ça veut dire qu'il ne travaille pas? Non, il travaille. Mais il travaille même comme consommateur, parfois, quand désormais vous prenez en charge des tâches qui étaient celles d'une personne au guichet, d'une personne qui montait votre meuble auparavant, mais que vous montez vous-même, quand vous imprimez vous-même votre billet d'avion, votre billet de train, quand vous passez à une caisse automatique, là auparavant, il y avait une personne. Vous voyez qu'il y a un travail gratuit du consommateur. Le revenu universel vient aussi mettre un nom sur cette transformation du travail. Et j'ajoute, puisqu'en fait, c'est la question souvent qu'on me pose, c'est est-ce que le revenu universel, ça ne va pas être une incitation à arrêter de travailler. Peut-être pour certains. Mais là encore, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, faites, posez la question, ce dimanche, dans, vous, les repas de famille sont maintenant en nombre réduit, mais en visio, je ne sais pas, hélas, on est obligé de passer par ça, mais posez la question autour de vous, qui autour de vous arrêterait de travailler s'il avait 750 € par mois? Rares seront ceux qui vous répondront « j'arrêterai ». Et souvent, quand ils vous disent « j'arrêterai », c'est pour se former et se diriger vers un autre travail ou un autre type d'activité. Donc en réalité, il faut qu'on mesure le potentiel de créativité que va libérer le revenu universel. Moi, je crois que c'est considérable et je suis très heureux que peut-être une des leçons de cette crise et de, aussi de ce que sont l'absence de réponse de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce soit de repenser de manière un peu positive à la façon dont on peut libérer notre créativité grâce notamment au revenu universel.
Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel, c'est le titre de votre livre. Benoît Hamon, il vient de paraître aux éditions Équateur. Merci d'être venu.
Merci
sur
Frédéric
Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
On parle beaucoup du populisme, du complotisme, de la multiplication des fake news, de la défiance grandissante et même de la haine qui se développe à l'égard de nos dirigeants. On en est conscient, on s'en inquiète, mais on n'en cherche pas l'origine. On se contente d'accuser les réseaux sociaux. Anne-Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, enseignante à Paris 8. Vous proposez une explication. Dans « Dernière nouvelle du mensonge » qui vient de paraître chez Lux Éditions, vous dites que dans les années 80-90, on a cherché le consensus et pour l'obtenir, on a laissé s'installer dans la parole publique un certain nombre de vérités révélées, de vérités officielles qu'il n'y avait plus la possibilité de contester, qu'elles avaient la force de l'évidence. Ce serait ça, en fait, le point de départ, d'après vous?
L'un des points de départ du cauchemar démocratique et social dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est effectivement cette période où les grands clivages politiques s'effacent, où on essaie d'imposer finalement une vision de la mondialisation comme une évidence, avec des politiques imposées. On se souvient de la fameuse formule « il n'y a qu'une seule politique économique possible ». Et cette volonté d'imposer le consensus a effectivement, petit à petit, tué la confiance dans le débat public et distillé des attitudes de soumission. Alors qu'en fait, on a besoin d'esprit critique pour rebondir et pour créer la discussion sociale.
Au fond, jusqu'aux années 80, il y avait un débat entre capitalisme et marxisme, entre libéralisme et socialisme, entre gauche et droite. Et puis dans les années 80, avec la fin de l'URSS et le triomphe du capitalisme, le débat aurait cessé. Il y a des dogmes qui se sont imposés peu à peu sur ce que l'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, sur la mondialisation, vous l'avez dit, ou sur la construction européenne, que vous citez beaucoup d'exemples également. Et au fond, ceux qui contestaient les uns ou les autres se sont retrouvés discrédités et bientôt exclus du débat.
La mondialisation a en fait été perçue comme la fin de l'histoire. Et cette période correspond aux thèses de Fukuyama, entre autres. Et la fin de l'histoire, c'est en fait la fin du débat, puisque si c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus de grandes questions, il n'y a plus de grandes interrogations, donc il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a plus qu'à organiser le présent, gérer, comme on dit maintenant, on gère tout, y compris nos relations sentimentales. Donc voilà, on est dans un espèce d'éternel présent, qui est en fait la mort de la pensée, la mort de, enfin c'est une espèce de mort totale de ce qui fait le sel de la vie démocratique. Et du coup, on n'a pas mesuré que ça discréditait la démocratie. En fait, ces pensées dominantes, ces vérités officielles ont discrédité la démocratie et du coup créé cette défiance qui est propice à tous les complotismes et à la propagation des fake news.
Anne-Cécile Robert, vous dites dans ce livre que l'économie, au fond, s'est vengée de la politique. Hein. L'économie est devenue un principe de réalité. Et puis, il y a la communication aussi. Si les citoyens ne sont pas d'accord, si certains se révoltent parce qu'ils constatent autour d'eux une réalité sociale qui ne correspond pas à ce que leur disent leurs dirigeants, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. C'est qu'il y a un problème de communication. Il faut faire de la pédagogie et tout rentrera dans l'ordre.
La politique s'est un peu suicidée aussi, hein, parce que quand les responsables politiques de droite et de gauche nous expliquent que précisément il n'y a qu'une seule politique possible, que l'Europe c'est comme ça et pas autrement, que le sens de l'histoire c'est la mondialisation heureuse, ils se suicident eux-mêmes parce que la politique c'est décider, c'est faire des choses, c'est penser, c'est proposer des alternatives, c'est proposer des chemins. Donc effectivement, ils se sont suicidés. Aujourd'hui, ils se plaignent, ils se disent « Mais comment ça se fait que les gens n'aient plus confiance en nous ? Comment ça se fait qu'on voit monter des totalitarismes ?» Mais la classe politique, tout bord confondu, est responsable de cette situation en ayant tué ce qui fait le sel de la démocratie, c'est-à-dire le débat, l'esprit critique.
Mais ce que vous dites aussi, c'est comme ça, au fond, que le mensonge s'est retrouvé au centre de la parole publique, d'où le titre de votre livre, hein, « Dernière nouvelle du mensonge ». Le mensonge a toujours existé en politique. Mais au fond, d'après ce que vous dites, les messages envoyés par le pouvoir ont été assimilés à de la propagande, et donc à des mensonges. Et c'est là-dessus que s'est développée la défiance à l'égard des élites et de la démocratie dans laquelle se sont engouffrés les complotistes ou les populistes.
Nos sociétés sont devenues en fait structurellement mensongères, c'est-à-dire incapables de distinguer le vrai du faux et incapables aussi de produire de la vérité. Parce que le problème des vérités officielles, c'est qu'elles laissent penser que la vérité, c'est une espèce de trésor caché qu'il faudrait découvrir, un peu comme avec une carte au trésor. Alors qu'en fait, si effectivement il y a des faits qui servent de base à la discussion, il ne faut pas raconter non plus n'importe quoi, il y a toujours une marge pour l'interprétation qui fait que la vérité est aussi une construction sociale. On le voit par exemple aujourd'hui avec le débat sur la dette. Tout le monde est d'accord sur un fait, il y a une dette, mais le sens à donner à cette dette, son origine, est-ce qu'il faut la rembourser ou pas, ça devient de la politique. Donc à chaque fois, dans la vérité, il y a une part de discussion qu'il faut absolument réhabiliter aujourd'hui, au lieu de se jeter à la figure des excommunications et des anathèmes à n'en plus finir.
En fait, aujourd'hui, ça donne un gouvernement qui, depuis le début de la crise du Covid, n'est pas tellement dans la concertation, hein, c'est ce qu'on lui reproche, et qui n'a pas hésité à un moment à répéter, c'était pendant le confinement de printemps, qu'il n'y avait pas de pénurie de masques, par exemple, ou que les masques étaient inutiles. Mais de l'autre côté, il y a une partie de la population qui, elle, nie carrément l'épidémie, qui répète que le virus n'existe pas, que c'est un complot de nos dirigeants. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même pied ? Est-ce que c'est comparable ?
Je ne sais pas si c'est comparable, en tout cas ça marche ensemble. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Tous ces délires complotistes, ils sont aussi comme des pathologies en réaction du fait que la démocratie elle-même a discrédité la construction de la vérité. La seule solution aujourd'hui, ce n'est pas de dénoncer, c'est très facile de dénoncer les complotistes, les fake news, les fascistes et autres. Mais le problème, c'est de comment on refonde la démocratie. Comment on refonde un espace public qui permette à la vérité d'émerger ? C'est ça le problème aujourd'hui. Tant qu'on restera dans des sociétés fragmentées, fracturées, on aura au mieux des vérités partielles et au bout du compte des conflits.
Est-ce qu'un un contre-discours, au fond, s'est élaboré, qu'on appelle aujourd'hui le populisme, le complotisme, les fake news, la post-vérité, les discours de haine contre lesquels on vote des lois, il viendrait de ce qui, de la part de nos dirigeants, est assimilé à de la propagande, une propagande qui durerait depuis 30 ans en faveur d'une idéologie que l'on voudrait faire passer pour la réalité. Ce serait ça, votre vision ?
Bah, disons que si ceux qui sont les porte-parole de la démocratie ne croient plus dans le débat et ont pour toute réponse, comme vous le disiez tout à l'heure, des opérations de communication. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, au lieu d'essayer de le résoudre, on va donner une interview dans un journal, on va sortir dans la rue, on va faire un geste. Si la réponse des démocraties, c'est uniquement de faire des opérations de communication, effectivement, on va être dans une sorte de trou noir. Et que les fascistes, que les gens autoritaires distillent des fake news, construisent des complots, à la limite, c'est leur boulot, mais que nous, les démocrates, on soit plus capables de porter haut l'honneur du débat, de se risquer à la confrontation des points de vue, c'est nous qui sommes plus responsables qu'eux. Parce que c'est à nous, les démocrates, de donner du sens, de la vie, à l'esprit critique, à l'espace public, à la démocratie, en fait.
Généralement, les gouvernements disent qu'il faut envoyer un message. Ils envoient des messages.
Voilà,
c'est
l'expression
consacrée.
Mais un message, c'est unilatéral. La démocratie, c'est forcément bilatéral, multilatéral. C'est forcément la confrontation de points de vue. C'est très intéressant, cette idée. On envoie un message, on fait un geste fort. On est dans l'unilatéralisme. On peut très bien être chez soi, dans son salon, envoyer des messages complètement hors de la vie. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne communique pas. Il faut prendre le risque de se confronter à une pluralité de points de vue et faire le pari sur l'intelligence critique des citoyens.
Cécile Robert, aujourd'hui, avec le Covid, l'idéologie du néolibéralisme, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est quand même fortement contestée par les écologistes, les socialistes, les communistes, les souverainistes, les nationalistes, les partisans de la réindustrialisation, du quoi qu'il en coûte, de l'État-providence, des services publics. Si vérité officielle il y a, elle ne tient plus qu'à un fil.
C'est le sort de toutes les vérités officielles, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que d'être remise en cause au bout d'un moment. Parce qu'une vérité officielle, c'est comme un bunker. Et un bunker, ça finit toujours par être attaqué. On met une grenade dans le trou et il saute. Donc le néolibéralisme, comme en son temps le communisme soviétique, qui est une vérité officielle, ont été détruites parce que ça ne peut pas tenir. Une vérité officielle, c'est le contraire de la vie, justement. Et donc le néolibéralisme subit le sort de toutes les vérités officielles. Et il est à espérer qu'il laisse place à un retour d'une véritable démocratie, c'est-à-dire un espace public où on peut discuter, comme on est en train de le faire là, à l'échelle de toute la société.
Merci Anne-Cécile Robert. Dernière nouvelle du mensonge, ça vient de paraître chez Lux Éditions.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme?
Alors, trois thèmes de discussion au sommaire de notre émission aujourd'hui. D'abord, le gouvernement et le retour de la machine à couac sur l'islamo-gauchisme. Les contrôles d'identité, alors que l'exécutif est au plus haut dans les sondages. Nous analyserons cette séquence un peu paradoxale avec les grandes voix. La question des violences sexuelles, cette parole qui se libère et la justice qui sanctionne notamment un ancien ministre, Georges Tron. Et puis, troisième sujet de discussion, Barkhane. Barkhane et l'interminable guerre contre le terrorisme au Sahel. La France réussira-t-elle à fédérer les États africains? Autre sujet de discussion avec nos grandes voix tout à l'heure à partir de 10h.
Merci Lionel, bonne émission.